les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1839, Eugène Delamarre, officier de santé établi dans le petit village de Rye, à quelques kilomètres de Rouen, épouse en secondes noces une belle femme d'environ 17 ans, Delphine Couturier. Celle-ci contracte bientôt des dettes, donne naissance à une petite fille, a plusieurs amants et meurt en 1848, empoisonnée. Ce fait divers est, dit-on, à l'origine de la rédaction de Madame Bovary. En 1981, Jean Montalbetti consacrait 3 épisodes de l'émission « Un homme, une ville » à Gustave Flaubert. Dans le deuxième, il se rendait en Normandie et mettait en scène l'affrontement de 2 points de vue. D'une part, celui des habitants de Rye, qui tenaient à souligner les liens entre leur village et la Yonville du roman, et de l'autre, celui d'Alain Robbe-Grillet, pour qui la topologie du récit est entièrement imaginaire. Un homme, une ville, Gustave Flaubert à Rouen, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 mai 1981.
Une ville, Gustave Flaubert à Rouen avec Alain Robbe-Grillet par Jean Montalbetti.
Regardez, là, il y a la chemise de Madame Bovary qui sèche à la fenêtre.
Oui, nous sommes dans une petite ruelle extrêmement étroite et avec des maisons qui s'affaissent plus ou moins.
Et qui ont les colombages encore garnis des anciens bardeaux de bois. Remplacé par endroits par des tuiles d'époques diverses.
Deuxième émission, topologie d'un pays fantôme. Lecture Catherine Sellers et François Martouret. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
Tout ce qu'on fabrique quand on écrit un roman, en particulier qu'on fabrique comme lieu, ça vient évidemment de lieux réels qu'on a plus ou moins fréquentés. Ça n'est pas inventé à partir de rien. Il y a eu une expérience du monde qui, effectivement, va servir pour alimenter cette création. Mais c'est devenu un matériau. C'est-à-dire que je ne sens pas, si vous voulez, de communauté profonde entre les lieux que nous traversons aujourd'hui et le texte que j'aime. Je ne sens pas. J'aime ces maisons. Là, bon, celle-là n'est pas terriblement bien restaurée. Elle était un peu vernie, mais enfin, quand même, j'aime ces vieilles maisons.
Oui.
Bon. Et d'un autre côté, j'aime ce texte, mais pour moi, ça n'a aucun rapport, même si cette maison est dans ce texte, parce que dans le texte, elle est devenue du texte.
Flaubert n'est pas un écrivain normand, contrairement à l'opinion exprimée par Jean de La Varande. C'est un écrivain universel. Mais nous pouvons aborder la Normandie de Flaubert inscrite dans sa vie et dans son œuvre, à travers une topologie d'un pays fantôme, c'est-à-dire l'étude des déformations continues qu'il fait subir au réel pour, comme il le dit, le transfigurer, donc lui donner une nouvelle forme par l'imaginaire et par là même une autre réalité. Dans la vie de Flaubert, la topographie normande est simple. Il va naître à Rouen, y vivre toute son enfance et sa jeunesse, y faire ses études. À Trouville, il rencontre, pendant les vacances d'été, en 1836, il a 15 ans, Elisa Schlesinger, femme d'un éditeur de musique. Il y passera encore l'été 1842. Il connaîtra sa première crise d'épilepsie en janvier 1844, il a donc 23 ans, à Pont-l'Évêque. À partir de 1844, la maison de Croisset, sur les bords de la Seine, à quelques kilomètres de Rouen, va devenir, jusqu'à sa mort, sa résidence et son lieu de travail, où il revient s'enfermer après chaque voyage. Dans l'œuvre flaubertienne, Madame Schlesinger, modèle de l'amour inaccessible, inspire le personnage de Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale. Et surtout, la région rouennaise de Neuchâtel à Rouen est le cadre choisi par Flaubert pour son roman Madame Bovary. Au départ, un fait divers, sans doute celui des Delamare, habitants de Rye, à 20 km de Rouen. Mais Emma Bovary n'est pas pour autant Delphine Delamare, ni même l'amie de Flaubert, Louise Pradier. Ces cycles de l'ennui, de l'enfermement spatio-temporel, de l'évasion par l'imaginaire comme compensation à la monotonie, que l'on a nommé bovarisme, c'est la tension même dans laquelle vit Flaubert et qui le fait écrire. De l'Hôtel-Dieu de Rouen au pavillon de Croisset, des vieilles rues de Rouen au village de Rye sur les traces des Delamare, et surtout, des premiers scénarios de Madame Bovary déchiffrés sur manuscrit à la bibliothèque municipale de Rouen, à l'examen de l'emboîtement du texte dans le roman, nous allons nous livrer avec Alain Rebrier à la recherche de la modernité de Flaubert à travers cette topologie d'un pays fantôme.
Autant pour les crosses, ils ont fermé les portes.
Mais...
Ah ben, attends, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Alors, voilà ici, voyez-vous, là. Ici, les bâtiments, là, sont encore 18e, ici, en ce qui concerne ce pavillon-là, ici, là, qui est dans lequel vous allez voir le musée, et qui était le logement du pavillon Flaubert. Le logement Flaubert a été construit au XVIIIe siècle pour loger le chirurgien de l'Hôtel-Dieu. L'ancien Hôtel-Dieu de Rouen n'était pas du tout à cet emplacement-là. Il était entre la cathédrale et la Seine, ce qui était la règle dans les grandes cités, à proximité de la surveillance épiscopale. Et ils n'ont transféré leurs malades ici qu'en 1758, après que les bâtiments de l'ancien Hôtel-Dieu de la Calande soient tombés complètement en ruine et qu'ils aient complété leurs bâtiments en partie édifiés, comme je vous le disais, au XVIIe siècle, complétés au XVIIIe siècle par l'aile de droite en rentrant dans la cour et par une aile de jonction entre les deux hôpitaux.
Il n'y avait que des salles communes énormes à l'époque du père Flaubert.
À l'époque du père Flaubert, il n'y avait, c'était la règle partout, des salles communes.
Et énormes.
Des salles de 50 à 60 lits.
C'est ça, oui.
50
c'est
à 60 lits. C'est ça.
Socialement, un chirurgien-chef comme ça, c'était quelqu'un dans une ville comme Rouen.
Le père Flaubert a fait une carrière brillante au point de vue social et au point de vue financier.
Un point de vue social
et
financier, oui.
Ah oui.
Alors, monsieur Auxerre, nous sommes entrés dans l'aile gauche de l'Hôtel Dieu, où il y avait autrefois les appartements du chirurgien-chef de l'Hôtel Dieu, et où maintenant est aménagé un musée Flaubert et la médecine.
Oui.
Alors, ce qui nous intéresse peut-être davantage que de voir le lieu où est né Flaubert, c'est peut-être de voir, puisque c'est aussi l'objet de ce musée, ce qu'était la médecine à l'époque de Flaubert. Parce que Flaubert a donc vécu ici, à l'Hôtel Dieu, au contact de son père, dans un milieu médical extrêmement évolué. Et en même temps, l'image qu'il nous en donne, par exemple, dans Madame Bovary, c'est souvent une médecine, au contraire, qui nous semble tout à fait archaïque.
Oui, la médecine présentée par Flaubert dans Madame Bovary n'est pas celle que pratiquait le père Flaubert. Le père Flaubert était chirurgien chef et unique, puisqu'il n'y avait à ce moment-là qu'un service de chirurgie, et le père Flaubert pratiquait une chirurgie de bon niveau et même de qualité, puisque le père Flaubert avait été formé à l'école parisienne, qui était ancien interne des hôpitaux de Paris, qui n'était venu à Rouen comme assistant du chirurgien l'aumônier, et que, à la mort de celui-ci, l'aumônier, en 1816, il est devenu à ce moment-là chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu. La chirurgie telle que la pratiquait le père Flaubert était la chirurgie de haut niveau d'un chirurgien d'hôpital de cette époque.
Alors, quelles sont les pièces que vous avez qui nous permettent d'évoquer justement ce qu'était la médecine ici à Rouen à l'époque de Flaubert ?
Je crois que la chirurgie du temps de Flaubert peut être évoquée à l'aide des, enfin, à travers les trousses, soit des trousses d'autopsie comme celle qui est actuellement sous vos yeux, ou alors à travers des trousses d'urologie, comme il y en a, ou des trousses d'amputation, naturellement, comme il y en a dans la vitrine à côté. Il ne faut pas oublier que les chirurgiens de la génération d'Achille Cléophas Flaubert étaient les héritiers directs des chirurgiens napoléoniens, pour lesquels Achille Cléophas Flaubert avait évidemment un culte naturel. Et il y a dans une autre vitrine ici une trousse d'amputation du Premier Empire de chirurgiens de l'époque de l'arrêt, par conséquent, lequel pratiquait les amputations avec une virtuosité et une rapidité extraordinaires sur le champ de bataille.
Alors cette trousse-là nous intéresse parce que dans Madame Bovary, il y a donc une amputation, c'est celle d'Hippolyte atteinte de gangrène, et un médecin vient de Rouen pour lui couper la jambe après l'échec de Charles Bovary qui a cru pouvoir opérer le pied beau. Alors comment se faisaient exactement ces amputations à cette époque? Est-ce qu'elles étaient pratiquées absolument sans aucune anesthésie?
L'anesthésie n'était pas connue. Les premières anesthésies remontent à 1850 environ. Et ils opéraient absolument sans aucune anesthésie, dans le sens moderne du mot. C'est-à-dire qu'ils peut-être ils pratiquaient une analgésie provoquée par des opiacés ou de l'alcool, mais sans aucune anesthésie actuelle.
Oui, alors l'amputation d'Hippolyte se fait absolument publique, puisqu'elle a lieu à l'auberge du Lion d'Or.
Dans l'arrière-salle, oui.
Dans la salle publique, et on a l'impression que tout le village est venu assister à cette amputation pratiquée par un médecin de Rouen.
Oui.
Et au lieu de nous faire assister à la scène, et on pourrait penser que peut-être Flaubert avait lui-même assisté déjà et connaissait le principe de l'amputation, toute la scène est racontée par Flaubert dans Madame Bovary à distance, c'est-à-dire du domicile de Charles et d'Emma Bovary. Charles, qui est responsable de la gangrène de la jambe d'Hippolyte, puisqu'il a voulu l'opérer de son pied beau, lui n'assiste pas à l'amputation pratiquée par son collègue de Rouen. Quant à Emma, bien sûr, elle n'a pas voulu la voir. Et toute la scène est vécue donc par eux du domicile des Bovary. Il n'y a que le cri que l'on entend, le cri de l'amputé, et on ne sait pas très bien d'ailleurs s'il s'agit du cri de l'amputé ou il s'agit du cri d'Emma, parce que finalement, il y a une sorte de déplacement au cours du récit, et l'amputation devient celle d'Emma qui, à ce moment-là, se coupe définitivement de Charles. C'est-à-dire tout son espoir de pouvoir continuer à vivre avec lui et à l'aimer cesse à partir du moment où la jambe d'Hippolyte est sectionnée.
Bovary, pendant ce temps-là, n'osait bouger de sa maison. Il se tenait en bas, dans la salle, assis au coin de la cheminée sans feu, le menton sur sa poitrine, les mains jointes, les yeux fixes. Quelle mésaventure, pensait-il? Quel désappointement? Il avait pris pourtant toutes les précautions imaginables. La fatalité s'en était mêlée. N'importe, si Hippolyte plus tard venait à mourir, c'est lui qui l'aurait assassiné.
Emma, en face de lui, le regardait. Elle ne partageait pas son humiliation, elle en éprouvait une autre. C'était de s'être imaginé qu'un pareil homme pût valoir quelque chose. Comme si 20 fois déjà, elle n'avait pas suffisamment aperçu sa médiocrité. Charles se promenait de long en large dans la chambre, ses bottes craquaient sur le parquet. « Assieds-toi, dit-elle, tu m'agaces !» Il se rassit. Comment donc avait-elle fait, elle qui était si intelligente, pour se méprendre encore une fois? Du reste, par quelle déplorable manie avoir ainsi abîmé son existence en sacrifice continuel? Elle se rappela tous ses instincts de luxe, toutes les privations de son âme, les bassesses du mariage, du ménage, ses rêves tombant dans la boue comme des hirondelles blessées, tout ce qu'elle avait désiré, tout ce qu'elle s'était refusé, tout ce qu'elle aurait pu avoir. Et pourquoi? Pourquoi? Au milieu du silence qui emplissait le village, un cri déchirant traversa l'air. Bovary devint pâle à s'évanouir. Elle fronça les sourcils d'un geste nerveux, puis continua.
C'était pour lui, cependant, pour cet être, pour cet homme qui ne comprenait rien, qui ne sentait rien. Car il était là, tout tranquillement, et sans même se douter que le ridicule de son nom allait désormais l'assalir comme lui. Elle avait fait des efforts pour l'aimer, et elle s'était repentie en pleurant d'avoir cédé à un autre. « Mais c'était peut-être un Valgus !» exclama soudain Bovary qui méditait. Au choc imprévu de cette phrase tombant sur sa pensée comme une balle de plomb dans un plat d'argent, Emma, tressaillant, leva la tête pour deviner ce qu'il voulait dire. Et ils se regardèrent silencieusement, presque ébahis de se voir, tant ils étaient par leur conscience éloignés l'un de l'autre.
Oui, de toute façon, il y a une technique flaubertienne du recul qui est généralisée dans toute l'œuvre de Flaubert. Le fait que la scène centrale dramatique soit vécue d'à côté, c'est typiquement flaubertien. Bon, il y a les exemples célèbres de la Révolution de 48 où le héros n'est pas, comme par hasard, il a pris un fiacre la veille pour aller à Fontainebleau, donc il n'est pas à Paris. Et d'une façon générale, les scènes d'action sont vues à distance. Alors, ça a très certainement une valeur, c'est-à-dire un rôle littéraire. La distanciation qui a fait couler tellement d'encre au XXe siècle, c'est déjà Flaubert qui l'a pratiqué par rapport à ce qu'il racontait. Il est évident que Balzac se serait mis au premier plan, qu'il serait venu dans la salle même, il aurait vu l'opération, il aurait été le premier, il aurait été là, comme à la place du chirurgien, comme à la place... Tandis que, au contraire... Là, c'est d'à côté, ce qui a un double rôle. D'une part, une espèce de distance critique, et d'autre part, un renforcement du principe d'incertitude, qui est justement ce que Flaubert développe de plus en plus dans son œuvre, de manuscrit en manuscrit pour chaque œuvre, et de livre en livre pour l'ensemble de l'œuvre. Le principe d'incertitude qui consiste à renforcer le texte aux dépens de ce qu'il est convenu d'appeler la diégèse, c'est-à-dire ce que le texte est censé raconter. Ce qui permet alors cet effet dont vous parlez, qui est l'ambiguïté. Le cri, on ne sait plus le cri de qui il est, et l'ambiguïté qui permet toujours le déplacement métaphorique, la coupure de la jambe qui devient la coupure de la relation amoureuse. Et d'autre part, alors pour ce que vous disiez de la différence de qualité entre la médecine, entre la chirurgie pratiquée par le père Flaubert et d'autre part la chirurgie pratiquée par le chirurgien qui opère dans Madame Bovary, c'est-à-dire Charles, ça aussi, c'est général dans l'œuvre de Flaubert. Il y a une espèce de médiocrisation du monde, en général. Alors, ça a été...
Oui, parce que Charles Bovary est un officier de santé, c'est-à-dire est un médecin de un peu de sous-catégorie.
Oui, c'est pas un médecin-chef.
Homais, de la même façon, est quelqu'un d'assez médiocre. Mais même les médecins qui viennent de Rouen ou de Paris, la médecine ne paraît jamais sous son meilleur jour.
Non, bien entendu. Exactement comme on disait à propos de Bouvard et Pécuchet. Ou la science, car Flaubert tenait beaucoup à la science. Et la science devient complètement inexistante, trompeuse, dérisoire, etc. Bon, alors là, ça a été porté au crédit du pessimisme de Flaubert, comme si c'était par pessimisme qu'il aurait fait ça. Moi, je ne le crois pas du tout. C'est simplement cette technique de l'anti-héros. S'il y avait un grand chirurgien, ce serait un héros, c'est-à-dire ce serait quelqu'un qui sortirait du commun. Or, au contraire, la passion du stéréotype, la passion de la bêtise, la passion du médiocre chez Flaubert, c'est une technique romanesque qui fait que l'écrivain n'est pas censé, comme à l'époque de Balzac, mettre en scène un personnage exceptionnel, mais mettre en scène seulement son propre texte.
«
Alors ici, nous sommes au premier étage, et c'était l'appartement du chirurgien-chef.
Oui, et depuis, j'ai reconstitué dans cette pièce un espèce de cabinet de curiosité dans lequel j'ai mis quelques objets, des oiseaux empaillés et des curiosités, en particulier des cires anatomiques de l'aumônier qui sont à l'origine de l'arrivée à Rouen de la famille Flaubert.
Il y a là un perroquet sous globe à côté de plusieurs oiseaux naturalisés. Est-ce que c'est le vrai perroquet d'un cœur simple?
Si l'on en croit l'étiquette que porte ce perroquet au pied, sur son piédestal, il provient premièrement du muséum de Rouen et il y a une inscription sur le pied qui dit ceci. Perroquet emprunté par Gustave Flaubert au muséum de Rouen pour être mis sur sa table de travail pendant la rédaction d'un cœur simple. Il s'appelle Loulou, le perroquet de Félicité, principal personnage du conte de Flaubert. Donc, il y a tout lieu de penser que ce perroquet est le perroquet authentique qui a servi à la description de Loulou.
Savez-vous que j'ai devant moi, sur ma table depuis 3 semaines, un perroquet empaillé? Il y reste à poste fixe. Sa vue commence même à m'embêter. Mais je le garde pour m'emplir la cervelle de l'idée de perroquet.
Quand vous lisez cela à la robe grillée, est-ce que ça vous gêne que Flaubert ait besoin d'avoir sous les yeux un perroquet pour pouvoir le décrire et le faire entrer dans son conte?
Écoutez, franchement, je ne crois pas du tout qu'il en ait besoin. Je crois même qu'il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je dise que c'est une dérision de ce sérieux qu'on prête aux écrivains, de se documenter. Bon, tous les écrivains, et en particulier au XIXe siècle, passent pour s'être documentés sur ce qu'ils racontaient. Balzac se documente sur les métiers des imprimeurs ou des journalistes quand il les fait entrer en scène dans ses livres. Et Flaubert se super documentait. On a presque l'impression qu'il y a, une surabondance, une espèce d'éclatement du phénomène de documentation par le fait qu'il devient trop bourré, trop énorme. Il prend la peine d'écrire le 28 juillet 1876, j'ai mis un perroquet devant mes yeux et je le contemple sans arrêt pour me pénétrer de l'idée de perroquet. Je vois là une dérision, vraiment.
Mais en même temps, il y a 2 pages dans le conte sur la description du perroquet Loulou.
Oui, du perroquet vivant, ce qui est le contraire même d'un perroquet empaillé. C'est vrai que l'écrivain, en général, pense par moments qu'il faut qu'il copie la réalité. Et Flaubert est un de ceux qui sont justement à la charnière de l'époque où on y croyait encore et de l'époque où on n'y croyait plus. Et c'est le perroquet d'un cœur simple est déjà un petit peu, si vous voulez, comme l'énorme Carthage de Salambo où Flaubert s'est documenté vraiment, vraiment. Et puis, c'est documenté un peu comme Cécile B. 2000 se documente sur la Rome antique quand il fait des péplums. C'est-à-dire, ça devient comme une moquerie de la documentation. Et pour moi, c'est ça.
C'est intéressant que vous réagissiez comme cela, parce que dans le nouveau roman, la description d'objets est très importante, et on pourrait penser que l'objet décrit par le romancier est devant ses yeux, tellement on entre dans les détails de l'objet.
C'est possible.
Or, c'est précisément le contraire.
Non, c'est pas le contraire pour l'ensemble du nouveau roman, et je ne pourrais pas du tout parler du nouveau roman de façon globale sur ce point, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Je me suis même aperçu que, dans une certaine mesure, on pouvait dire que, de ce point de vue, il y a eu 2 écoles dans le nouveau roman. Bon, la minutiosité de la description est la même. Mais il est évident que Pinget ou moi-même, on ne se met jamais devant l'objet en question. Si on était devant, on n'aurait plus aucune envie de le décrire. Que l'objet est un objet purement imaginaire qui a été formé dans notre tête à partir d'objets réels. Bon, j'ai souvent raconté, non pas une histoire de perroquet pour moi, mais une histoire de mouette. Dans un de mes premiers romans, Le Voyeur, le personnage central décrit longuement une mouette qu'il a devant les yeux. Bon, une mouette,
vivante ressemble davantage à une mouette empaillée qu'un perroquet vivant à un perroquet empaillé, parce que la mouette est remarquablement immobile. Elle a l'air naturellement empaillée, si j'ose dire. Mais moi, je suis allé voir à l'époque des mouettes vivantes sur la côte bretonne en me disant, tiens, vous savez, j'ai eu l'idée comme ça, naïve, de tout romancier, je suis en train de décrire une mouette, je vais regarder des vraies mouettes, etc. Et j'ai signalé, je crois, dans un de mes textes, que ces mouettes réelles que j'ai aperçues m'ont semblé immédiatement dérisoires, ridicules, inexistantes, sans réalité. La seule mouette réelle qui avait de la réalité, qui avait de la présence pour moi, c'était celle que j'avais dans la tête. Elle venait probablement de mouettes réelles anciennes de mon enfance ou de je sais pas quoi, mais elle s'était entièrement transformée par l'imaginaire. Bon, ça, c'est vrai pour moi. Mais il est certain que Claude Simon ou Claude Ollier, à plusieurs reprises, se sont mis devant des choses réelles pour les décrire. Et ça a été même une des querelles de Sérisy à l'époque des grands colloques sur le nouveau roman, ces deux écoles qui s'affrontaient, ceux qui pensaient qu'il y avait un référent, ce qu'on appelle un référent dans la description, c'est-à-dire un objet réel qui sert de modèle, et d'autres qui pensaient que le référent ne pouvait pas exister puisque l'objet décrit était créé par la description. Et je pense que Flaubert, si vous voulez, est typiquement l'écrivain qui crée un monde par sa description. Et que cette tentative de regarder un vrai perroquet, d'une part, elle est dérision de sa part, et d'autre part, elle est cette contradiction qu'il y a dans l'objet imaginaire, qui pense toujours qu'il a des référents, mais quand il se trouve, cet objet imaginaire, en présence de son référent, il s'aperçoit qu'il a beaucoup plus de réalité que le référent, et qu'il est comme s'il était lui-même le référent de l'objet réel.
Charles Bovary, officier de santé, 33 ans, quand commence...
Le livre.
Veuve déjà...
Quand commence le livre.
Quand commence le livre, veuve déjà...
Veuve déjà...
Non, je crois, veuve déjà d'une femme plus vieille que lui, épouse par spéculation, ou plutôt
par bêtise... Et il a été...
Épousé, par spéculation plutôt que par bêtise.
À la bibliothèque municipale de Rouen, où sont conservés tous les manuscrits de Madame Bovary, nous examinons, en compagnie du conservateur M. Simonet, le tout premier scénario du roman.
À la campagne, jusqu'à 15 ans.
3 ou 4 ans au collège, puis carabin.
Loge rue de Rouen.
À grand-peine. Misère. Misère sotte et dont il n'a pas conscience, esprit doux, sensible, droit, juste, obtus, sans imagination, une ou deux grisettes. Donc c'est vraiment un style très télégraphique.
Et puis en plus, alors, 33 ans quand commence le livre, tout à fait faux, n'est-ce pas ? Quand Madame Bovary commence, il a 8 ans ou quelque chose comme ça.
Bon, voilà, ça c'est tout à fait le premier.
Alors ça c'est le premier étalon,
vraiment le premier début du scénario de Madame Bovary. Alors, ensuite, comment, à partir des quatre premiers feuillets que nous avons, se développe le scénario du roman ?
Alors là, ce sont les masses de brouillon qui vous en donnent l'idée. Mm-hmm. Là, on voit tout le travail se faire.
Et il y a à peu près une cinquantaine de pages de scénario.
Alors là, immédiatement apparaît le fait qu'il n'a pas 33 ans, mais voilà, Charles Bovary entre en cinquième à l'étude.
C'est ça, il prend le personnage de Charles dès l'enfance. Habit de campagne, note-t-il.
Ah oui, alors au contraire, il entre habillé en bourgeois dans le texte. Et les autres petits garçons sont en habit de campagne. Oui, donc il n'a pas...
Sans singularité.
Quoi. Oui.
Ici, je lis, là, dans la page 10 d'un scénario, la description assez précise de Yonville-l'Abbaye. Yonville-l'Abbaye, gros bourg dans une vallée, une petite rivière, des bois à quelques distances, hôtel du Lion d'Or tenu par une veuve. C'est là qu'on prend la voiture pour Rouen, l'hirondelle cauchoise, conduite par Hiver, messager, qui fait toutes les commissions sans savoir lire. Beaucoup de mémoires adressées par le pharmacien. Madame Emma donne un chic anglais au jardin, petite rivière au fond. Au-delà de la rivière, une prairie. La maison de Madame Bovary est sur la place. Au bout de la place, les halles. Plus loin, l'église avec un clocher carré en ardoise. Cimetière neuf, deux ou trois tombes seulement. Alors, on voit là qu'il y a une topographie extrêmement précise qui est prévue dès le début du scénario. Et un petit peu plus loin, à la page 16 de ce document, on voit que Flaubert a fait un plan de Yonville-l'Abbaye.
Oui, mais c'est un plan imaginaire, de lieu imaginaire. C'est ça qui, pour moi, est important. C'est-à-dire qu'il est en train de créer le monde. Madame Bovary ne se passe pas aux environs de Rouen, ni à Rouen. Ça se passe dans la tête de Flaubert. Et là, il se trouve qu'il a fait un petit plan à cet endroit-là. Mais l'ensemble du texte de Flaubert se passe dans une réalité parfaitement ancrée, mais pas ancrée dans la Normandie, pas plus que Salambeau n'est ancrée dans les environs de Carthage. C'est le texte créateur d'une histoire, créateur d'un lieu, créateur d'un monde.
Alors, sur ce plan, nous avons ici indiqué des champs, l'emplacement de la mairie, où se passera donc la remise des comices agricoles, l'enfant, le cimetière aussi qui est indiqué, un embranchement, route neuve. Et puis, il y a là les halles. Sur la place, H, c'est Homais, donc la pharmacie qui est en face. Et B, la maison des Bovary. Donc tout ça se situe sur une place. Malgré tout, la topographie de ce village imaginaire est un village normand typique.
Vraisemblable, vous pouvez dire vraisemblable. Bon, vous voulez dire qu'il est important pour le roman que le village imaginaire de Yonville soit fait plus ou moins sur le plan d'un vrai village? Non. Ce plan est un stéréotype, de toute façon.
Oui, mais d'un village normand.
Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout de même un problème, si vous voulez, c'est tout le problème de Rie. Alors là, on tombe dans une querelle d'érudition locale et plus large, d'ailleurs, qui, encore, à mon avis, est un faux problème. Enfin, ce qui est tout de même...
C'est-à-dire qu'on a cherché à trouver dans la réalité le village dont se serait inspiré Flaubert.
C'est ça, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a une chose certaine, c'est que tout de même la source de Madame Bovary... On peut s'en moquer, ce qui compte, c'est le roman. Mais c'est tout de même partie de la fameuse histoire d'un officier de santé qui avait travaillé dans le service de Père Flaubert. Et c'est Ducamp qui a dit, après l'échec de la lecture de la Tentation de Saint-Antoine, la fameuse soirée où on lui a dit, enfin, Bouillet et Ducamp lui ont dit, il faut mettre ça au feu. Tu ferais mieux d'écrire l'histoire de Delamare, dit Ducamp. Et alors, comme Madame de Lamare venait de Rie, et qu'il y a une analogie, enfin, ça a été le départ de tout un...
Oui, mais enfin, c'est comme vous dites, la vieille querelle, qui est un faux problème.
C'est un faux problème.
Qui pourrait peut-être, à la rigueur, se poser pour Balzac, mais qui, effectivement, pour Flaubert, ne se pose pas du tout. C'est-à-dire que c'est une habitude considérée comme utile pour l'écrivain se documenter. Bon, le mythe de la documentation est déjà un stéréotype, et c'est en tant que stéréotype que Flaubert le vit, et ça ne l'empêche pas de le faire avec une espèce d'humour, si j'ose dire. Allons voir comment c'est.
Alors, le début de l'histoire est ici, et vous avez les textes de Flaubert qui sont juste devant chaque scène.
Alors, monsieur Michel Burgot, vous êtes fabricant d'automates à Rie ? C'est dans le village que
oui,
vous avez installé votre petite entreprise.
C'est ça, et ça dure depuis 25 ans à peu
c'est
près.
C'est vous qui l'avez créé ?
Oui, mais je fabriquais des automates depuis 25 ans déjà.
Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de fabriquer des automates sur le roman de Madame Bovary ? Et surtout, qui a pris l'initiative d'installer dans cette vieille maison de riz à l'entrée du village le musée qui contient plus de 300 automates ?
500 automates. Et qui a pris l'initiative ? C'est très simple, c'est moi bien entendu. Mais quelle idée j'ai eue ? Vous me demandez à partir... Mais, tout simplement parce que je fabriquais des automates et que la relation est très simple de dire tiens, je vais fabriquer des automates, je vais fabriquer l'histoire de Madame Bovary, puisque Rie est le pays de Madame Bovary. Hein ?
Le pays de Delphine de la Mare.
Le pays de Delphine de la Mare. Et alors je crois que c'est la première fois que l'on refait une histoire en automate. Et quelle histoire ?
Alors, ce musée est organisé un peu en fer à cheval, donc
oui.
Sur les trois côtés d'une
oui.
grande pièce rectangulaire. Et il y a une succession de scènes qui
oui.
sont les unes à côté des autres.
Qui sont dans l'ordre.
Voulez-vous nous les décrire ?
Mais oui, si vous voulez. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois. C'est Flaubert, c'est le texte de Flaubert, et tout à fait le début du livre, il se met en scène dans les écoliers.
Et est-ce que vous avez représenté dans cette petite classe d'écoliers où ils sont tous debout
oui.
avec le maître là
oui.
qui est près
oui.
du tableau, est-ce que vous avez représenté quelque part la casquette de Charles Bovary ?
Bien sûr. Charles Bovary, arrivé à l'école avec sa casquette à la main, il est là dans le coin. On le voyait à peine, que dit Flaubert. Il a une casquette un peu bizarre avec du bariolage de couleurs dessus.
Vous avez réussi à la reconstituer d'après la description.
Mais c'est très simple, d'après la description de Flaubert. Il met en scène, c'est un metteur en scène, Flaubert.
Deuxième
il
scène.
Il n'y a qu'à suivre. Alors
la deuxième scène,
je passe tout de suite à Charles Bovary qui est devenu adulte et qui donne des consultations. Pendant que sa première femme, qui est jalouse, regarde à travers les carreaux.
Oui, il y a effectivement sur son divan une jeune femme blonde,
oui,
aux jupes relevées.
Et qui donne forcément beaucoup de jalousie à cette dame que dit Flaubert, qui était laide, sèche comme un cotteret et bourgeonnée comme un printemps.
Yonville-l'Abbaye, ainsi nommée à cause d'une ancienne abbaye de Capucins dont les ruines n'existent même plus, est un bourg à 8 lieues de Rouen, entre la route d'Abbeville et celle de Beauvais, au fond d'une vallée qu'arrose la Rieule, petite rivière qui se jette dans l'Andelle, après avoir fait tourner trois moulins vers son embouchure, et où il y a quelques truites que les garçons, le dimanche, s'amusent à pêcher à la ligne. On quitte la grande route à la Boissière, et l'on continue à plat jusqu'au haut de la côte des Leux, d'où l'on découvre la vallée. La rivière qui la traverse en fait comme deux régions de physionomie distincte. Tout ce qui est à gauche est en herbage, tout ce qui est à droite est en labour. La prairie s'allonge sous un bourrelet de collines basses pour se rattacher par derrière au pâturage du pays de Bray, tandis que du côté de l'est, la plaine, montant doucement, va s'élargissant et étale à perte de vue ses blondes pièces de blé. L'eau qui court au bord de l'herbe sépare d'une raie blanche la couleur des prés et celle des sillons, et la campagne ainsi ressemble à un grand manteau déplié qui a un collet de velours vert bordé d'un galon d'argent. On est ici sur les confins de la Normandie, de la Picardie et de l'Île-de-France, contrée bâtarde, où le langage est sans accentuation, comme le paysage sans caractère. Jusqu'en 1835, il n'y avait point de route praticable pour arriver à Yonville. Mais on a établi vers cette époque un chemin de grande vicinalité qui relie la route d'Abbeville à Rouen, dans les Flandres. Cependant, Yonville-l'Abbaye est demeurée stationnaire, malgré ses débouchés nouveaux. Au lieu d'améliorer les cultures, on s'y obstine encore aux herbages, quelque dépréciés qu'ils soient, et le bourg paresseux, s'écartant de la plaine, a continué naturellement à s'agrandir vers la rivière. On l'aperçoit de loin, tout couché en long sur la rive, comme un gardeur de vaches qui fait la sieste au bord de l'eau.
Au fond de cette même salle, vous avez reconstitué
oui.
ce qui a probablement servi de modèle à la pharmacie de Homais,
c'est
à Yonville-l'Abbaye. C'est la pharmacie des Joannes.
La pharmacie des Joannes, cette pharmacie-là, date de 1850. Elle se trouvait dans le centre du pays.
Alors, il y a d'abord la vitrine,
oui.
donc, dans cette pièce,
oui.
sur laquelle on lit « pharmacien de première classe
oui. »,«
Joanne fils successeur »,« docteur en médecine, ancien élève des hôpitaux ».
Le curriculum vitae de Joanne est excessivement important.
Des eaux thermales, membre et lauréat de la Société des sciences, arts et belles lettres de Paris et de l'École supérieure de Paris.
Et
alors,
il
nous allons
toujours
entrer, si
etc.
c'est possible. Oui, la liste n'est pas
oui, prête. Oui, vous pouvez entrer.
Alors, ce n'est pas un magasin très, très vaste. Il y a un comptoir en,
oui,
en demi-cercle.
En demi-cercle.
D'abord, avec quelques pots, une balance, un mortier. Et il y a sur tout le mur des boiseries, derrière
oui.
le comptoir, avec différents de flacons.
Les flacons de la pharmacie,
contenant
c'est ça.
Donc les produits.
Oui, oui. Et alors, il y a sur la droite, ici, une toise. Ce n'est pas une guillotine, c'est une toise. On a l'impression.
Oui.
Et ça servait à M. Joanne pour mesurer les conscrits. Parce que, comme dans le roman, il voulait s'occuper absolument de tout dans le pays et il mesurait les conscrits. Son père également l'a fait.
Et l'armoire à poison, alors, où se trouvait-elle?
Alors, elle se trouvait dans le haut de l'escalier. Alors, ici, nous l'avons replacée, bien entendu, dans le haut de l'escalier.
Donc, au premier étage.
Au premier étage. Ces portes-là étaient exposées au musée Flaubert pendant un certain nombre d'années, le musée Flaubert de Rouen. Et ça nous a été rendu et nous les avons réexposés ici.
Au premier étage, nous ne verrons pas le coin de l'armoire à poison puisque je crois qu'à la suite des transformations dans la pharmacie Joanne, ce coin a été démoli.
Ce coin a été démoli, mais les portes de l'armoire à poison sont ici. Et puis alors, en descendant l'escalier, on retombe dans une salle où il y a des documents sur la genèse de Madame Bovary.
Nous allons les regarder. Pour justement la genèse, il faut rappeler que la femme d'Eugène de Lamarre, qui
oui.
était officier de santé à Rye, et qui s'était installée à Rye en 1837. Sa femme s'appelait Delphine Couturier, était née en février 1822, et elle est morte à Rye dans les conditions
dans
de
les
Madame
conditions
Bovary
exactes, oui.
en mars 1848, alors qu'elle avait 27 ans. C'est-à-dire
c'est
elle
ça.
Était donc très jeune.
Et Flaubert l'a fait mourir à 26 ans dans son roman.
Alors, mars 48, c'est à peu près un an après, je crois en septembre 49,
oui.
que Flaubert fait à ses amis la lecture de la première version de la Tentation de Saint-Antoine.
Oui.
Et la réaction de ses deux amis, Bouillet et Ducamp, est
oui.
négative, et il lui conseille d'écrire l'histoire d'un fait divers, justement,
c'est
qui
ça.
A eu lieu peu de temps avant, c'est-à-dire juste
c'est
un
ça.
An avant.
C'est ça.
Et Flaubert se mettra, à son retour d'Orient, en 1851, à la rédaction de Madame
de
Bovary.
De Madame Bovary, voilà.
Alors probablement
alors,
il y a eu plusieurs modèles, mais enfin celui auquel s'attache
le canevas principal,
le souvenir de Rye,
oui.
c'est bien sûr celui de Delphine de
Lamarre. Le canevas principal est celui de Delphine de Lamarre. Il est évident que quand Flaubert dit qu'elle faisait siffler les lacets de son corset, etc., il prend le modèle sur une de ses amantes, peut-être Louise Collet, peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas.
Ou Louise Pradier qui a servi.
Louise Pradier, peut-être, peut-être, mais c'est peu sûr, Louise Pradier, à mon avis. Parce que Louise Pradier, évidemment, on sait bien qu'elle était ruinée, etc. Et que, mais il a pu prendre une partie. Mais Delamarre était ruinée. Et on a là un acte d'inventaire.
Et ça vient du notaire, 1849, et dans cet acte d'inventaire, la famille Flaubert a prêté de l'argent à Delamare par deux fois. Ce qui prouve d'une façon irréfutable que Delamare connaissait bien
Mais
Flaubert.
On a dit d'ailleurs que Eugène Delamare, qui était donc officier de santé, avait été également l'élève du
bien
père
sûr,
de Flaubert.
Bien sûr, ça tout le monde le savait. Mais il y a des tas de petites preuves qui sont importantes. Tout en étant, voyez-vous, là il y a un acte, c'est un acte juridique. Monsieur Delamare, médecin Harry, a intenté un procès à sa belle-mère parce que sa première femme, Louise Mutel, n'était pas la riche héritière prévue. Et souvenez-vous, dans le roman, Flaubert dit « Il a épousé la veuve Dubuc en première noce ». Eh bien, cette veuve Mutel, elle s'appelait de son nom de jeune fille Clotilde Dubuc. C'est quand même étrange. Et puis, sur le pharmacien, Homais, que l'on a dit, on a dit partout que le Homais n'était pas anticlérical. Bien sûr, il n'était pas tout à fait anticlérical, mais il n'avait pas la même philosophie que le curé. Il était franc-maçon, compas et équerre sur ses assiettes qu'il a créées en 1855, après bien entendu, mais il a créé une société de secours mutuel, une des premières de France, il y en avait quelques-unes, et il a fait faire un service de vaisselle pour inaugurer sa société. Il fallait le faire dans le temps, on ne reculait devant aucun sacrifice.
Attendez, vous parlez de qui là? Vous parlez
du fils Joanne.
Du fils Joanne.
Qui a été le modèle de Homais.
Voyez, c'est ça un petit peu l'ambiguïté. Harry,
oui.
On mélange à la fois la réalité de
la réalité
Joanne
et la fiction.
Et la fiction, oui. Celle de Madame Bovary, celle d'Homais.
Oui, et celle d'Homais, le Homais du roman a bien été, à mon avis, le Joanne de Ri, mais le Joanne fils.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous arrêtons à tous les ports.
Nous arrêtons à tous les ports.
Buvant du cidre à chaque village.
Buvant du cidre à chaque village.
Cueillons dans les clos des lilas.
Cueillons dans les clos des lilas. Nous avons rencontré des dindons enfantiques.
Des lapins prolifiques.
Des chapeaux vieux garçons.
Nous avons rencontré des oies très distinguées.
Et des corps de poisson.
Nous avons rencontré monsieur le maire et le curé.
La mercière et sa frère, le serveur et sa soeur.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux s'en mettent en ménage. Chacun voudrait en faire autant. Nous avons fait des
Docteur Maire, vous nous recevez dans la mairie de Ri.
Oui.
Vous êtes le maire de Ri d'abord depuis combien de temps?
Depuis 10 ans.
Depuis 10 ans.
11 ans.
Et vous habitez Ri vous-même depuis?
Depuis 1935 à peu près.
Vous êtes donc l'un des habitants les plus anciens de
la commune.
Un
des habitants anciens de la commune, oui.
Alors, il y a deux choses qui nous frappent. La première, en arrivant à Ri, c'est de trouver un village extrêmement coquet, dont les maisons, les habitations, je dirais presque l'urbanisme également, correspond à un village traditionnel de Normandie tel qu'il pouvait être à peu près au XIXe siècle. Donc il a été relativement peu modifié au XXe siècle. La seconde, c'est de trouver Flaubert omniprésent. Il y a une place Gustave Flaubert devant la poste, il y a un monument avec son médaillon, il y a un restaurant qui s'appelle Madame Bovary, il y a sur des maisons les plaques où on voit sur une maison par exemple la plaque de la maison de Monsieur Homais, sans qu'il soit précisé que c'est un personnage de fiction. Il y a également une autre plaque pour le notaire, et on a vraiment l'impression que Ri, en 1981, vit encore à l'heure de Madame Bovary, c'est-à-dire du milieu du XIXe siècle.
Il est exact que le pays, la commune de Ri, qui s'appelle d'ailleurs le bourg de Ri, parce que le mot bourg veut dire une concentration de commerçants. Ri se trouve dans le roman à 8 lieues de Rouen.
C'est Yonville, Yonville-l'Abbaye.
Or, ça représente à peu près 16 kilomètres, 20 kilomètres, étant donné que le lieu était à 4 kilomètres. Nous considérons que tout autour de Rouen, d'ailleurs vous allez remarquer, il y a des petits sous-centres ou des centres qui sont dotés d'une structure commerciale, administrative, fonctionnelle, telle que ça fait des centres, ça fait des étapes à 15-20 kilomètres de Rouen. La chance de Rie a voulu qu'il y ait eu ici un groupe de jeunes très amoureux, très épris de l'identification voulue entre Yonville-l'Abbaye et Rie et Madame Bovary et Emma Bovary et Delphine Couturier, qui est l'héroïne du roman, avec Delamare à la place de Charles Bovary, si vous voulez. Mais faux ou vrai, ce n'est pas le maire de Rie qui va vous dire que c'est faux. Parce que, même si ce n'est qu'une légende, il est certain que Madame Bovary, que Delphine Couturier et tout ceci ont existé, que tout porte à croire qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais tout montre, pour un homme averti, un homme de lettres, un homme qui goûte la littérature, que ça ne peut pas être la photographie identique, car si c'était une photographie identique, ça n'aurait pas le succès voulu.
Vous connaissez Rie depuis 50 ans, vous avez une expérience d'un demi-siècle de cette ville, bourgade. De cette bourgade. Quelle est la sociologie actuelle de Rie? Est-ce que c'est toujours une commune rurale et ou est-ce que la sociologie de cette bourgade n'a pratiquement pas changé depuis un siècle?
Eh bien, elle est différente. Je comprends votre problème parce que, vous savez, dans Rie, de l'époque de Flaubert, il y a eu Homais. Homais est un type de personnage qui existait autrefois. Le journalisme était tout à fait naissant. Il envoyait des lettres et des articles dans tous les journaux, mais d'une façon dithyrambique. C'était le correspondant local. Le pharmacien de l'époque, qui s'appelait Joanne, a même été jusqu'à construire une maison qui s'appelle le Phalanstère. Et cette maison est occupée actuellement par la gendarmerie locale. Et ce Phalanstère était fait dans le style Homais de l'époque, c'est-à-dire dans fiche plein la vue à tout le monde, parce que qu'est-ce que c'est le mot Phalanstère? Veut dire vivre en communauté. N'est-ce pas? Mais une communauté de qui? Agricole, n'est-ce pas?
Alors, il y avait eu Fourier?
Probablement. Mais c'était surtout la volonté de paraître. En fiche plein la vue, parce que les notions nouvelles de marxisme commençaient à apparaître, ou tout au moins de socialisme naissant commençait à apparaître. Il fallait être pour l'égalité des droits, pour la justice, etc. Je voulais s'entendre tout ce qu'ils avaient pu se dire. Or, ceci a disparu, tout s'est nivelé. Il y aura demain aussi des Homais. Vous savez, il y en aura qui voudront faire peut-être autre chose. Mais à l'heure actuelle, je ne peux pas dire que c'est tranché comme dans le temps. Non, je trouve que nous avons la chance d'avoir Flaubert avec nous. Alors Flaubert et le cadre de Rie, c'est le plus beau pays du monde.
La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue. Et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet, et il ne put un jour lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître ? Exceller en des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie, à tous les mystères. Mais il n'enseignait rien, celui-là, ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse. Et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait.
En relisant Madame Bovary, j'ai été extrêmement frappé par la tendresse qu'il avait pour tous les personnages du livre. Tous. En particulier pour Charles et pour Emma. Et peut-être même pour les plus épouvantables, peut-être même pour Homais. Il y a quelque chose de Homais qui passe dans Flaubert. Et je me suis dit comme ça qu'à la limite, on pouvait dire que tous les personnages, c'était Flaubert. Qui ne fait que se dédoubler, détripler, démultiplier sous un certain nombre de facettes contradictoires, mais que toutes ces facettes le représentent, lui. et en particulier, évidemment, Charles et Emma, qui forment une espèce de couple contradictoire, et ce couple contradictoire, c'est Flaubert. C'est-à-dire ce personnage qui est tellement attaché à la vie bourgeoise, au confort bourgeois, à tout un environnement normand, si vous voulez, mais en tout cas douillé, d'une part, et qui trouve aussi que les femmes font bien des histoires et que les grands mots, c'est vraiment ridicule, et que le romantisme, c'est bien pour les midinettes, etc. C'est-à-dire le bon bourgeois rangé qui se moque des grandes idées. Et d'autre part, il est Emma, c'est-à-dire le désir de voyage, le désir d'autre chose, le désir d'un ailleurs, toujours insatisfait, toujours courant après quelque chose, après une idée, après le fantôme d'un livre ou quelque chose comme ça. Et j'ai été frappé à très nombreuses reprises dans le texte de sentir non seulement une très grande pitié pour l'un comme pour l'autre, mais même presque une très grande estime, une très grande reconnaissance. Il se reconnaît dans ces deux personnages. Je pense que d'ailleurs on peut aller encore plus loin dans ce domaine. Ça n'est probablement pas seulement de la tendresse qu'il éprouve pour Charles et pour Emma, il éprouve de l'identité. C'est lui. Et pour Emma en particulier, on peut presque aller jusqu'à dire que Emma, c'est l'écrivain. C'est-à-dire que ce personnage est tellement peu, en fin de compte, nul à ses yeux, il est tellement important, au contraire, à ses yeux, qu'il a fait passer à certains moments dans le texte, des espèces de métaphores textuelles où l'imagination d'Emma apparaît justement comme l'imagination de l'écrivain et comme le travail de l'écrivain. Alors ça, c'est quelque chose qui me frappe en particulier au moment où elle trouve le fameux porte-cigare brodé après le bal à la Vaubyessard. Bon, alors, vous vous rappelez le passage, n'est-ce pas? Elle a donc été invitée avec Charles au début de son mariage à ce fameux bal à la Vaubyessard.
C'est précisément l'événement qui va déterminer sa deuxième vie, c'est-à-dire sa vie imaginaire.
C'est l'événement qui va déterminer sa vocation d'écrivain à Emma. Et ce qui est très drôle, c'est que Flaubert emploie à propos de cet événement le mot de « trou ». Son voyage à la Vaubyessard avait fait un trou dans sa vie, à la manière de ces grandes crevasses qu'un orage en une nuit creuse quelquefois dans les montagnes. Imaginez un personnage balzacien dans la même circonstance, une jeune femme qui s'ennuie en province et qui tout d'un coup est invitée dans un château pour un grand bal qui l'émerveille. Ça la remplirait. Elle aurait l'impression que ça la comble, quelque chose qui donne tout d'un coup un sens à sa vie. Là, c'est le contraire. Ça a privé sa vie de sens et ça a creusé un trou dans sa vie. Le mot « trou », là, est parfaitement flaubertien et c'est le trou même que Flaubert dit avoir été creusé dans sa propre existence par le désir d'écrire. Or, en sortant du bal où elle devrait sortir comblée, pleine de sens, tout d'un coup, elle est vidée. Et elle trouve, à ce moment-là, le porte-cigare. Et c'est ça qui est très, très, très amusant. Elle est donc avec Charles dans leur modeste voiture qu'il faut tout le temps réparer, qui marche pas très bien, et dont les brides cassent, les chevaux sont pas des beaux chevaux, la voiture est moche, enfin, c'est toute son existence. Et puis alors, elle aperçoit tout d'un coup des cavaliers sur leur monture.
Qui reviennent du bal, justement.
Ils étaient sur les hauteurs de Thibourville lorsque devant eux, tout à coup, des cavaliers passèrent en riant avec des cigares à la bouche. Emma crut reconnaître le vicomte. Ah, voilà, les cavaliers avec le cigare à la bouche. Alors bon, les deux signes sexuels qui courent à travers tout le roman, le cheval et le cigare, qui apparaissent là conjoints d'une façon précise, ce sont des beaux jeunes gens sur des beaux chevaux avec des gros cigares au bec, n'est-ce pas? C'est bon. Et quelques pas plus loin, un de ces cavaliers a laissé tomber quoi ? Un porte-cigare. Un porte-cigare où il y a encore deux cigares dedans. Et alors c'est ce porte-cigare que, dès la page suivante, elle va contempler, regarder. Et la description qu'elle en fait à ce moment-là est une description extrêmement troublante, car de nouveau va reparaître l'image des trous et l'image de la trame. C'est-à-dire que elle s'exalte sur le souffle de la brodeuse qui est passée à travers les mailles entre les fils de chaîne et les fils de trame du porte-cigare, et ensuite elle suit les fils de soie qui ont brodé les motifs sur ce canevas, n'est-ce pas ? Et l'ensemble, dès ce moment-là, a presque l'air d'être une description du texte. C'est-à-dire fil de chaîne, fil de trame et les fils de soie de couleur qui circulent entre les espaces vides du canevas initial. C'est d'autant plus frappant que l'image a souvent été donnée par des théoriciens modernes de la façon dont le sang circule à travers une œuvre contemporaine. C'est-à-dire, d'une part, la présence des trous, qui est essentiel pour que justement le sens puisse circuler, et d'autre part, les différents réseaux de sens qui sont ici les fils de soie colorés qu'on peut suivre l'un après l'autre, indiquant dans le texte, le tissu, des réseaux de signification différentes, etc. Alors, Madame Bovary se trouve doublement assimilée à l'écrivain. D'une part, parce qu'elle organise du sens à l'intérieur d'un tissu, et d'autre part, parce qu'elle est femme. Et alors là, je crois qu'il faudrait insister sur une espèce de féminitude que Flaubert prête à l'exercice de la littérature. On a appelé bêtement le bovarisme un caractère féminin, la femme qui s'ennuie en province, qui prend un amant, etc., etc. Alors que peut-être que le bovarisme, ce serait tout simplement le désir d'écrire. Écrire pour former un monde plus fort.
Cette maison de Croisset, habité par la famille Flaubert, se trouve à quelques kilomètres de Rouen. Nous sommes à combien de kilomètres de Rouen, là, madame, maintenant ?
4 kilomètres.
4 kilomètres de Rouen. Et vraiment, tout à fait en bordure de Seine, tout dans un court espace qui se trouve entre la falaise et puis la Seine. Exactement en face
exactement
du port de Rouen.
Exactement en face du port, oui.
Alors, cette maison a été achetée par les Flaubert en 1844. Et elle a bien sûr occupé une place importante dans la vie de Flaubert, puisqu'il y est mort en 1880. Alors, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Nous venons de pénétrer à l'intérieur du jardin. Il y a un petit pavillon qui se trouve à l'entrée.
Il ne reste que le petit pavillon.
Uniquement ce pavillon-là ?
Uniquement le petit pavillon.
Et à quel moment a-t-elle été détruite ?
En 1883.
Trois ans seulement après la mort de
Flaubert. Trois ans seulement après, pour installer une distillerie.
À ce moment-ci, il y a moins de souvenirs dans le pavillon, s'il y en a de partie à Paris.
Pardon.
Oui, c'est une pièce d'assez petite dimension.
Et ah alors oui, que c'est l'on un a tout petit pavillon
transformé
qui
en musée.
Servait de salon. Et vous avez là-haut la maison.
C'était une grande maison.
C'était une grande maison, oui. Que le docteur Flaubert avait acheté peu de temps avant de mourir, d'ailleurs. Avant, il avait une maison de campagne, parce qu'il fallait s'aérer de l'Hôtel Dieu, qui était vraiment très confiné. Il avait une maison à Déville, pas très loin d'ici. Et lors de la construction de la ligne de chemin de fer Rouen-Le Havre, le chemin de fer passait dans le jardin, ça devenait invivable. La maison existe toujours, d'ailleurs, mais le docteur Flaubert a cherché autre chose et il a acheté cette maison, ils sont installés très peu de temps avant la mort du docteur Flaubert et de la sœur qui sont morts presque en même temps. Il y a un certain nombre d'objets, ils ne sont pas tous ici parce qu'ils ont été prêtés à la Bibliothèque nationale pour l'exposition, mais il y a également sa canne, son encrier, des coups de papier, des pipes, des plumes.
Ah oui, il y a des reliques ici, montre de Flaubert, oui. Avec son chiffre, une montre en or, une petite montre en or.
Cheveux de Gustave Flaubert transmis par Henri de Régnier.
Mèche de cheveux. Il y a un verre, je vois un verre et un mouchoir. Qu'est-ce que c'est, ça ?
C'est censé être le verre dans lequel Flaubert a bu quelque temps avant de mourir. Enfin, tout ça est assez macabre.
Même dit l'étiquette. Oui. Et là, il s'est. Alors, quelques instants avant de mourir, il s'est essuyé le front et il a bu un verre.
J'avais essayé d'occulter ce genre de relique parce que je trouve que c'est un peu macabre.
Mais qui a transmis ces reliques?
C'est Caroline.
C'est sa nièce.
Oui, Caroline a vraiment donné beaucoup de choses.
Est-ce que, un peu à la manière de Sartre, vous avez été un obsédé de Flaubert avec ce mélange de fascination-répulsion pour un être auquel vous ressembliez trop?
Ah, moi, j'ai pas du tout de répulsion pour Flaubert. Alors là, je me distingue fondamentalement de Sartre, avec qui j'en ai d'ailleurs parlé quelquefois. Il n'aime pas Flaubert, parce qu'il ne s'aime pas lui-même. Sartre a passé toute sa vie à se détester, et à se détester en tant qu'enfant même, ce qui est particulièrement déplorable. Moi, je ne déteste pas mon enfance, je ne déteste pas cette petite bourgeoisie médiocre qui m'a donné le jour. Je ne déteste pas. C'est un monde où on peut vivre heureux, en réalité, et où on peut devenir écrivain. Et par conséquent, j'ai pas du tout cette répulsion pour Flaubert. Au contraire, j'ai pour Flaubert le même amour total qu'il a pour Emma. Les relations sont absolument symétriques.
Un homme, une ville, Gustave Flaubert à Rouen avec Alain Robbe-Grillet par Jean Montalbetti. Cette deuxième émission avait pour thème « Topologie d'un pays fantôme » avec la participation du docteur Ossard, de Michel Burgot, du docteur Maire, de Monsieur Simonet. Les lectures extraites de Madame Bovary ont été faites par Catherine Sellers et François Martouret. Prise de son Jean-Marie Charron, Daniel Labigne, Yves Bardet. Mixage Gilbert Costa, Joseph Rémiot. Réalisation Jean-Claude Loiseau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 mai 1981. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovelies weeping on the faraway shore. Out on the briny with the moon big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Baby, leave all your lovelies weeping on the faraway shore. Now out of the briny with the moon big and shiny, melting your heart of stone.
get you on a slow boat to China, all to myself.